BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la France est à l'arrêt depuis un an, mais on continue à nous expliquer qu'il faut choose France comme ce week-end. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va revenir sur une actualité qui a été très riche cette semaine sur l'économie, les marchés et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être quand même cette trêve, hein. Ça a été quand même un changement radical, alors qui n'a pas surpris les gens qui nous suivent, puisqu'on l'avait annoncé, mais ça y est, ils se parlent, Xi Jinping et Trump, et ils vont être très potes. La question macro, qui est vraiment la question centrale pour moi des semaines ou des mois qui viennent, à la fois pour les marchés, à la fois pour l'économie, mais à la fois pour vos placements. Où vont les taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe? Et c'est pas très clair, donc on va en reparler tous ensemble. Le chiffre de la semaine, justement, alors qu'on parle de Choose France, on a eu cette enquête sur les investissements étrangers. Alors, cocorico, on est toujours la première destination européenne des investissements étrangers. Ce qui est moins bon, c'est qu'on est en baisse de 14% par rapport à l'année dernière. Pourquoi est-ce que ça va durer? En deuxième partie de l'émission, la bourse, où est-ce qu'elle va? Elle a rebondi cette semaine avec ce revirement aux États-Unis. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est un feu de paille? Qu'est-ce qu'on fait de son argent dans ce contexte-là? Dans quel produit on doit placer son argent? Quelle allocation d'actifs privilégiée? Évidemment, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est la partie que je préfère dans l'émission. Le triathlon est sa spécialité, triathlon de l'économie, de la finance et des taux d'intérêt. Valentine Hénouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute.
Bonjour Marc.
Donc vous allez nous dire où vont les taux d'intérêt?
Exactement. Question clé.
Vous avez la réponse ou pas?
Enfin, j'ai une conviction.
Ah, vous avez la réponse. Ah, c'est génial, ça. Spécialiste des nuages du cloud, il s'est rapproché du soleil en devenant gérant. C'est Sunny Asset Management, notre ami Louis de Montalembert.
Bonjour, Marc.
Toujours un plaisir de vous voir, Louis.
Mais
même
pareil,
si on si on n'est pas souvent d'accord et si je trouve que vous travaillez pas assez vos émissions, mais c'est pas grave. mais c'est pas grave. Je suis très content.
Je suis tellement brillant.
Quand j'ai envoyé le texte de l'émission en disant bonne préparation, il m'a dit ah bon, on doit travailler. Je vous balance tout moi. Au cœur de l'Ariège, il y a un petit château qui date du XIIIe siècle. Le château Montségur, un château cathare. Et dans ce château, alors Jean-Marc, vous qui aimez bien l'histoire, il y a des moines soldats de la gestion. Incroyable.
Ah oui.
Et ben François Chollet est le président de Montségur Finance. Et il est venu, vous êtes venu à cheval?
Non, à moto, mais bonjour Marc.
Bonjour. Ça va? Il est immense.
Bon, ça commence bien.
Il est monumental.
Ça se poursuit bien.
Il veut que nous travaillions plus, que nous investissions à l'étranger dans des pays émergents comme le Congo, et que notre euro soit fort.
Oui.
Le légendaire Jean-Marc Daniel.
Bonjour. Je vois que vous lisez la bonne presse, parce que l'euro fort, c'est un article récent, oui.
Mais moi, je vous suis. Dès que vous écrivez quelque chose, je regarde. Donc, vous avez dit « Vive l'euro fort » dans les échos cette semaine.
Absolument.
Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que c'est très intéressant, parce que ça va un peu à contre-courant de l'idée qu'il faudrait que l'euro baisse pour qu'on soit plus compétitif, sauf que vous, vous en foutez de vendre des produits à l'étranger, puisque vous voulez qu'on investisse au Congo.
Exactement.
Et pour investir au Congo, il faut un euro fort.
Exactement.
C'est bien ça?
Oui.
Ok.
Mais pas sur Abidjan, parce que je rappelle qu'à Abidjan, il y a la monnaie, c'est l'euro aussi.
Ah bon?
Oui, ça s'appelle le franc CFA, mais il y a un change fixe avec
l'euro. Alors, à quoi l'euro. Ça sert d'avoir, puisqu'on investit
parce qu'on est
investi. On va investir ailleurs qu'au Congo?
À Kinshasa, où il n'y a pas l'euro.
Ah, d'accord.
Et à Mumbai.
Bah, évidemment. Allez, le mot de la semaine, c'est la trêve. Avant de nous dire adieu. J'ai dansé des slows là-dessus. Non, mais ça me rappelle des très très bons souvenirs. Je vous dirai pas quoi, mais. Allez, une surprise, mais pas pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord, au moins, pour une trêve. Avec une baisse drastique des droits de douane punitifs. Vous rappelez, les 125%, les 145%. Bon, tout ça, c'est fini. On est à 30, on est à 10. Bon, est-ce que, Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec quelles conséquences pour l'économie mondiale?
Je suis assez surpris de votre enthousiasme à l'idée que ce soit vraiment la trêve. On n'en sait rien. Dans une semaine, ça peut être remis en cause.
J'y crois pas du tout. Mais c'est pas grave, je vous laisse parler.
Oui, oui. Le gouverneur de la Banque de France, par exemple, François Villeroy de Galhau, commentant l'actualité, non pas dans cette émission, mais sur notre plateau, a dit, en fait, l'économie mondiale subit deux chocs. Un choc protectionniste et un choc d'imprévisibilité. Et il dit, on peut pas savoir ce qui va se passer dans une semaine. Alors, je pense que cette trêve est liée à la façon dont réagit l'administration républicaine, indépendamment d'ailleurs de Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils ont fait un triple constat, à mon avis. Le premier constat, c'est que les droits de douane sur la Chine, c'est les consommateurs américains qui vont les payer. Et Nicolas Gregory Mankiw, qui est un grand économiste américain, dit « Moi, je vis avec des produits européens, donc ce qui m'intéresse, c'est les droits de douane sur l'Europe, parce que je bois du Chablis, je suis habillé par Hugo Boss, j'ai une Audi, et je passe mes vacances en Toscane. Okay. » En revanche, ma secrétaire, elle va chez Walmart, et elle est à 80% avec des produits chinois. Et elle a voté Donald Trump. Donc, les mid-termes seront assassines si on maintient des prix chinois plus élevé. Donc, c'est pas un accord entre la Chine et les États-Unis. Ce qui vient de se passer, c'est la prise de conscience par l'appareil républicain que si on continue à taper sur les Chinois, on va au-devant.
Je pensais que vous auriez une vision un peu moins consensuelle et un peu moins microcosme médiatique parisien, quoi. Je pense que vous alliez avoir une vision.
Mais alors après,
plus
j'ai deux éléments complémentaires très vite. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est que les Américains continuent à vivre au-dessus de leurs moyens et oui. Donc le déficit budgétaire voilà. N'arrête pas de se creuser.
Ça, je le répète. Vous l'avez appris, je le répète tout.
Voilà, c'est bien. Donc
la balance des paiements courants.
Et la balance des paiements courants au rendez-vous est dans une situation dramatique.
Je le répète. Or, à chaque fois maintenant.
Quand vous regardez la situation des finances publiques américaines, vous avez deux postes qui sont les plus lourds. C'est 1000 milliards de dollars, c'est la charge d'intérêt, et 900 milliards de dollars, c'est la défense. Or, dans les deux cas, ce que disent les républicains, c'est que ce sont les étrangers qui en bénéficient. Les 1000 milliards de dollars sont reversés essentiellement aux étrangers. Alors, pas tout à fait.
Bah, essentiellement. Oui, il y a 20%.
Il y en a une partie
20%.
30%.
20%.
Oui. Et les 900 milliards, ça sert à protéger les étrangers. C'est ce que disent les républicains en disant.
Pas vrai non plus.
L'OTAN, vu ce que dépensent les Européens, l'OTAN, ça protège les Européens avec notre argent. Et donc, il y a une correction à faire, qui est une correction sur à la fois...
Qui est en cours.
Qui est en cours, sauf que elle est
grâce à Trump.
Et Elon Musk, et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire, c'est du délire. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens.
Et le troisième point.
Et le troisième point, c'est que quand on regarde effectivement l'accord, ce que vous annoncez, une trêve, ça reste quand même des droits de douane.
Oui, oui.
Et donc, des droits de douane, ça reste quand même une perturbation de l'économie mondiale avec une nouvelle, c'est que on ne sait pas si les États-Unis vont pas rentrer en récession. Ce que l'on sait, c'est que le Japon, par exemple, a vu son activité se contracter au premier trimestre. Oui. Donc, dans les économies développées, l'Allemagne est en difficulté.
Oserais-je rappeler...
Le Japon est en difficulté.
Oserais-je
et donc, tout le monde est en train de subir les conséquences de la politique de Trump.
Oserais-je rappeler que quelqu'un sur ce plateau m'a expliqué que parfois, il valait mieux moins de croissance, notamment si cette croissance était alimentée par une consommation qui créait des déséquilibres. C'est ce que vous m'avez dit. Et maintenant, vous êtes en train de pleurer parce qu'il va y avoir une récession aux États-Unis.
Non, je suis en train de pleurer parce que face à un État qui est conforme à ce que je raconte et ce que vous avez bien compris, c'est-à-dire que la consommation est excessive aux États-Unis, c'est d'ailleurs ce que dit, par exemple, Scott Bessent, le secrétaire...
Je lui parlais la semaine dernière.
Oui, donc il confirme, il dit, écoutez, il faut que les Américains redécouvrent le sens du travail et de l'État. Sauf que la réponse par rapport à ça, c'est pas de faire des droits de douane. La réponse, normalement, c'est de faire des vraies réductions de dépenses publiques, de se poser effectivement des questions sur le budget de la
défense. Mais c'est bien de faire quelque chose quand même, plutôt que de rien faire comme on fait chez nous.
Ah, il vaut mieux ne rien faire que faire des conneries.
Ah oui.
C'est je pense pas que ce soit une connerie. La médecine, c'est primum non nocere. Avant de faire quoi que ce soit, il faut éviter de nuire.
Oui. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quoi qu'il se passe, moi je pense qu'il y aura deal. Quoi qu'il se passe, il y aura deal, mais à la fin, il y aura des droits de douane.
Exactement.
Quel impact sur l'économie ?
Exactement. Pour moi, ce qu'il faut, il y a une trêve, etc. Mais on est quand même dans, on ne sait pas un retour à la case départ.
Non, non.
Le monde a changé. On va avoir des droits de douane.
Voilà, ça on le sait.
Des droits de douane plus élevés. Et c'est surtout pas la fin de l'histoire. Il y a une volonté de l'administration Trump de réindustrialiser l'économie américaine. Après, on trouve ça bien, pas bien, etc. Mais c'est quand même cette volonté. Ils vont toujours. Pour moi, l'idée d'augmenter les droits de douane, c'est juste une étape dans le programme de Trump. Ce n'est pas une fin en soi.
L'impact sur l'économie pour vous, c'est quoi? Parce que Jean-Marc nous dit, attention, si on continue à ce que vous dites, Jean-Marc, hein,
oui.
En gros, s'il y a même des accords, mais il va y avoir des droits de douane. S'il y a des droits de douane, il y aura ralentissement, voire récession.
Exactement. Il y a un ralentissement. Mais la volonté de Trump n'est pas de s'occuper de l'économie américaine pour les 12 prochains mois. Il y a une volonté de changer le modèle économique américain, d'avoir une réindustrialisation de l'économie. Et ça va avoir un coût pour la croissance sur les 12 prochains mois. Mais ça, il le savait. Un coût en termes d'incertitude, incertitude, on le voit, hein, sur les entreprises, les ménages, et un coût aussi en termes d'inflation, quoi. Mais c'est une volonté de changer le modèle économique, de réindustrialiser. Après, on peut très bien justifier...
De réindustrialiser et de réorienter la consommation,
de
voire
réorienter,
la diminuer.
Exactement. Mais
on devrait être content qu'on cherche
après,
à diminuer la consommation.
La justification, elle n'est pas économique pour moi. Parce que si on regarde ça d'un point de vue économique, on peut dire que ce n'est pas justifié. Là, il justifie, quand on écoute les discours de Scott Bessent ou de Vance, la justification de cette volonté de réindustrialiser, c'est pour des raisons de sécurité nationale et aussi pour des questions de main-d'œuvre, d'équilibre social. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a un risque quand il y a une montée en puissance, enfin, qu'il y a une montée. Par exemple, la Chine aujourd'hui est en train de monter sur la chaîne de valeur et est devenue un partenaire très sérieux dans les secteurs de la technologie pour les États-Unis. Donc, c'est plutôt un risque de sécurité nationale qui justifie cette volonté de réindustrialiser.
Louis de Montalembert, même si vous êtes gérant, je vous laisse parler en première partie de l'émission, mais très brièvement.
Vous êtes aimable. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une vraie tentative de réindustrialiser. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie du narratif et du discours électoraliste, mais que, de manière réaliste, c'est totalement faux d'imaginer que ce qui est fabriqué en Chine, les t-shirts, les chaussures, toutes les choses en plastique vont être fabriquées aux États-Unis.
C'est pas ce que dit Valentine. Valentine dit produits stratégiques relocalisés, et le reste, à la limite, la secrétaire de votre ami économiste, elle consommera moins de produits chinois. C'est pas dramatique
pas
non plus.
Mais non, elle consommera.
Au lieu d'acheter deux t-shirts, elle en achète qu'un.
On peut pas faire descendre le pouvoir d'achat d'une.
Non, pas descendre le pouvoir d'achat.
La plupart des Américains. Mais si, écoutez, le gros de la valeur.
On peut réduire. Attendez, on a toujours dit que les États-Unis surconsommaient. On peut réduire une partie de la consommation.
Non, mais là, vous êtes un décliniste. En fait, vous parlez comme les déclinistes qui disent qu'il faut moins consommer. C'est pas
opératoire. Non, je parle comme les adeptes de Jean-Marc Daniel qui disent une partie de la consommation, c'est comme le cholestérol,
écoutez,
ça peut être mauvais.
Les Américains vendent du jus de cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une paire de Nike qui arrive de Chine, en réalité, 90% de la valeur est captée par les États-Unis. Oui. D'accord? C'est pas les 10% de valeur qui sont captées par la Chine pour la production qui ont véritablement du sens. Donc, je pense pas qu'il y du sens pour les Américains de réinternaliser la production des Nike.
François, je passe la parole.
On parlait de la présibilité du président Trump. Il y a beaucoup d'anti-Trump partout, tout le temps.
Ouais. Bah, sur
moi, j'ai un peu
beaucoup.
Le constat de dire qu'il a quand même un track record économique, premier mandat plutôt favorable. Et depuis le début là, il a quand même réussi quelque chose qui est un tour de force que je trouve moi en tout cas inimaginable au début, c'est parvenir à multiplier par 4 les droits de douane sans que le monde s'écroule et qu'il y ait eu des levées du bouclier ou des revanches extrêmement pénalisantes pour l'économie américaine. Et donc, je crois qu'il faut du temps.
Ouais, et contrairement à ce qui se dit, je pense pas que...
Il est peut-être en train de gagner. Ce que je voulais juste dire là, c'est peut-être qu'il est en train de gagner son pari.
Et moi, là où je suis pas d'accord avec vous, Jean-Marc, c'est que je trouve pas que ce soit imprévisible. On voit très bien où il va, quoi.
Non, je pense pas qu'on voit où il va. D'abord, rappelons quand même que les États-Unis, quand on regarde donc les déficits de balance des paiements courants, quand on regarde comment ils sont répartis à la surface de la planète, les deux tiers du déficit global des pays qui sont en déficit, ce sont les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est 900 milliards de déficit de leur balance des paiements courants, 900 milliards de dollars. Le pays qui vient après, c'est le Royaume-Uni, avec 80 milliards de déficit de sa balance des paiements courants. Vous rendez compte de la disproportion qu'il y a. Et donc, la conséquence de ça, c'est que la souveraineté des États-Unis, c'est pas de produire sur place, c'est de continuer à être propriétaire des gens qui sont sur place. Parce que ces 900 milliards de dollars, ils deviennent quoi? C'est ce que raconte là aussi Donald Trump dans son premier mandat. Quand il voit passer des Audi et qui dit, écoutez, voilà, est-ce qu'on n'est pas capable de produire nous aussi des automobiles, et son conseiller à côté lui dit, mais l'enjeu, c'est pas les automobiles qu'on achète, c'est le fait que l'hôtel dont nous quittons le bar est propriétaire des fonds de pension japonais. C'est-à-dire que les États-Unis sont le pays le plus détenu au monde, et leur souveraineté n'existe plus, non pas parce qu'ils ne produisent pas, mais parce qu'ils ne sont plus propriétaires, parce qu'ils sont en déficit de leur balance des paiements courants. Donc la réponse à ça, c'est de rétablir l'épargne, c'est ce discours Bessent, et là où je suis assez d'accord, c'est-à-dire que soit on rétablit l'épargne de façon punitive, c'est-à-dire on baisse la consommation par des droits des douanes, et la conséquence c'est qu'il va perdre les élections de mi-terme. Et soit effectivement,
mais on peut pas lui reprocher à la fois de faire du populisme et à la fois de risquer de perdre les élections en faisant quelque chose que vous-même vous trouvez finalement vertueux.
Fondamentalement, son discours là aussi c'était de dire je vais rétablir les finances publiques. Ça a été cette espèce de mascarade de Elon Musk. Maintenant, maintenant il en est à dire qu'il va augmenter les impôts, alors qu'il avait annoncé qu'il augmenterait pas les impôts. Là, il a annoncé que finalement,
bon, il y avait des gens... En fait, vous y croyez pas du tout.
Ah non, mais c'est vraiment n'importe quoi.
Allez, on passe tout de suite à la question
c'est
Macron.
Une politique de gribouille.
Ah oui, complètement. Et qui est totalement improvisé de semaine en semaine, sans qu'il y ait, contrairement à ce que vous dites, de véritables lignes.
Ça me rassure.
Avec simplement.
On est dans le microcosme médiatique parisien. Ça me rassure.
Simplement. Un constat, c'est que effectivement, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Et les États-Unis sont dépossédés de leur patrimoine.
Allez, on va tout de suite à une question qui vous concerne directement. C'est où vont les taux d'intérêt aux États-Unis ou en Europe? On a du mal à y voir clair. Hein. Alors, on a une spécialiste des taux, et puis Jean-Marc aussi. On se retrouve dans une situation qui est quand même assez incompréhensible. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes en train de nous dire « Attention, on va vers la récession. On va vers éventuellement un ralentissement fort de l'économie. » De l'autre côté, il y a cette crainte que, ce que vous disiez tout à l'heure, les droits de douane provoquent chez Walmart l'a annoncé cette semaine, une hausse des prix, donc une hausse de l'inflation. Donc, on s'y retrouve pas, quoi. C'est quoi la tendance sur les taux d'intérêt? Alors, j'imagine que la situation aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. On commence par les États-Unis, on parle de l'Europe, Valentine.
Ok. Alors, déjà, pour comprendre pourquoi ces taux sont aujourd'hui en hausse. Les taux, parce qu'on a, par exemple, si on regarde le 10 ans américain, il est à 4,5. Début avril, on était autour de 4.
D'accord. Alors, 10 ans américain, c'est le taux d'emprunt d'État américain à 10 ans, qui est considéré comme un taux de référence.
Voilà, c'est un taux de référence. Alors, pour deux raisons, les taux américains sont en hausse. La première, déjà, c'est qu'il y a un recul des craintes de récession. Donc, les investisseurs, aujourd'hui, on anticipe moins de baisse de taux de la Fed et ont repoussé la première baisse de taux de la Fed. Et puis, la Fed aussi a maintenu un discours où elle est vraiment dans une forme d'attentisme. Écoutez, l'économie américaine reste solide, l'inflation est élevée, et avec la politique de Donald Trump, il y a une incertitude très forte sur la trajectoire de l'inflation, manque de visibilité, on va attendre d'en savoir un peu plus avant de décider la trajectoire de la politique monétaire. Deuxième raison, pour expliquer ces hausses de taux, qui est très différente de la première, c'est que les investisseurs aujourd'hui réclament plus de rendement pour se positionner sur la partie la plus longue, sur les maturités les plus longues. Pour deux raisons. La première, c'est déjà, il y a énormément d'offres de dette américaine, de papier. Hein, la dette américaine, depuis 2020, a augmenté de 30%. Et là, les investisseurs se disent, oula, Donald Trump, il est en train de parler de baisser les impôts. On a déjà un déficit budgétaire de l'ordre de 6-7% de points de PIB. Comment est-ce qu'on va pouvoir financer ces nouvelles baisses d'impôts? Donc là, ils s'interrogent sur le fait qu'on puisse être inondé.
Ça, c'est le point 1 du point 2.
Exactement. Et le point 2 du point 2, c'est qu'il y a une certaine méfiance aujourd'hui sur les actifs dollars. Et quand Donald Trump commence à mettre en doute l'indépendance de la Fed, on voit immédiatement ces deux mouvements se mettre en avant sur les marchés. Un, les taux longs montent, et deux, le dollar baisse.
Ça ne dit pas ce que vous pensez. Alors, c'est très clair.
Voilà,
merci.
C'est très clair. Pour eux. Qu'est-ce que je pense?
Très rapidement.
On va où? Pour moi, les taux vont en baisse.
Aux États-Unis et en Europe?
Aux États-Unis et en Europe. Déjà, pour moi, l'économie américaine reste résiliente, mais elle ralentit dans un contexte où on n'a pas encore vu l'impact de la politique de Trump sur l'économie. Le niveau d'incertitude est élevé et tout l'impact sur les hausses de prix est à venir. Et le deuxième point, et ça c'est vraiment le plus important, les niveaux de taux réels sont élevés. Alors là, je vais expliquer. Les niveaux de taux réels, en général...
Elle est lâchée parce qu'elle a... Valentine, là.
C'est important de comprendre les taux réels aujourd'hui.
Très vite, parce qu'on ne va pas faire l'émission.
Qui sont sur des plus hauts depuis 10 ans. En général, quand on a des taux de financement autour de 4% et qu'il y a de l'inflation, ce n'est pas un sujet pour une entreprise. Là, maintenant, on a des coûts de financement à 4%, mais avec un recul de l'inflation. Donc là, ça veut dire un coût de financement réel qui est beaucoup plus pesant pour les entreprises. Donc, ce qui est vraiment aujourd'hui pénalisant, c'est ces niveaux de taux réels. Et là, le risque, il est vraiment important à surveiller sur la dette américaine, parce qu'on a 30% de la dette qui arrive à maturité, sur les entreprises et sur les ménages les moins aisés. Voilà.
Jean-Marc Daniel, votre vision des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe par rapport à justement vos anticipations?
Par rapport aux anticipations, alors d'abord l'idée que Donald Trump a annoncé des baisses d'impôts, c'était la semaine dernière. Ouais. Cette semaine, il a annoncé qu'il allait augmenter les impôts. Je signale un autre que des droits de douane, c'est des impôts. Donc quand on augmente les droits de douane, on augmente aussi les impôts. Mais sur les taux d'intérêt, dans l'actualité, il y a deux réactions de banque centrale. Il y a Jérôme Powell. Jérôme Powell, il est dans une situation où, à titre personnel, il se fait traiter d'imbécile. Il est menacé d'être exécuté, y compris physiquement. Trump a dit, je vais me le faire, mais y compris physiquement, alors qu'il l'a nommé. Elon Musk, qui a disparu un peu du spectacle, a annoncé que les États-Unis avaient très bien vécu sans banque centrale entre la présidence de Jackson et la présidence de Wilson, et que la banque centrale était une création démocrate, puisque Wilson était démocrate. je comprends que le gars soit un peu dans l'esprit.
Un peu nerveux.
Et se pose des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir. Il n'est pas tout seul, évidemment, il a un conseil de ça. Bon, il n'est pas tout seul. Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, lui a légèrement baissé ses taux en disant qu'effectivement, compte tenu du constat des croissances potentielles, c'est-à-dire que normalement, la grande règle qui a valu à un de nos économistes le prix Nobel, hein, Maurice Allais, celui qui a démontré avec des équations assez élaborées que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance potentielle, taux d'intérêt d'équilibre. Et donc, Andrew Bailey dit, écoutez, la croissance potentielle partout dans le monde est en train de reculer, y compris aux États-Unis. Donc normalement, les taux d'intérêt tels qu'ils sont encore trop élevés. Et ce qu'a dit aussi Andrew Bailey, c'est que beaucoup de banques centrales ont maintenu des taux à court terme assez élevés avec des endroits où il y avait des inversions de taux. C'est-à-dire, il y avait des taux d'intérêt à court terme qui étaient supérieurs aux taux d'intérêt à long terme.
Et donc,
conséquence, je pense que les banques centrales vont plutôt s'orienter vers une politique qui continuera à baisser les taux d'intérêt et que les taux à long terme vont plutôt avoir tendance à se stabiliser vers les niveaux auxquels ils sont arrivés à ce moment.
D'accord, mais attendez, vous nous dites quand même, attention, les droits de douane, c'est des impôts.
Oui.
Donc, ça va quand même, alors je sais que vous dites, l'inflation, c'est une hausse de prix durable, mais ça va quand même créer un peu d'inflation, ou ça va empêcher un reflux de l'inflation aussi rapide. Dans les mois qui viennent, il va y avoir 10-20% de droits de douane pour l'assistante qui achète 90% de ses produits, ou l'assistant, en Chine.
Mais la question qui se pose, c'est que le droit de douane, l'inflation, normalement, je reviens à Friedman, c'est essentiellement un phénomène monétaire, c'est un décalage entre l'offre et la demande avec un excès de demande.
D'accord.
Là, quand vous augmentez les droits de douane, c'est pas un jeu entre l'offre et la demande, c'est une décision administrative.
D'accord,
d'un
mais
État.
Ça va créer une hausse des prix.
C'est récessif. Ça crée une hausse des prix, mais c'est pas
donc
forcément.
C'est pas inflationniste.
Inflationniste non. S'il n'y a pas d'effet de second tour.
D'accord. Alors que. Il y aura quand même les chiffres d'inflation vont quand même augmenter.
Absolument,
pendant
les
quelques
chiffres
mois.
De des prix donc d'inflation okay. vont augmenter et donc la façon dont les banques centrales vont réagir est importante. Mais encore une fois, vous regardez ce qu'a dit Andrew Bailey, il dit c'est pas ça le véritable enjeu en ce moment. Et quant à Jérôme Powell, le mec il est terré dans son bureau et puis à mon avis il cherche à acheter un gilet pare-balles. Enfin c'est
et en Europe, en Europe la situation elle est quand même plus claire.
Ouais, pourquoi
oui. on n'a pas des taux. Alors d'un autre côté il y a quand même ce que dit Valentine, c'est-à-dire il y a le niveau de dette. Qui pèse sur la baisse, qui empêche cette baisse des taux.
Non seulement le niveau de dette, mais aux États-Unis, c'est encore plus grave.
Et même en Europe, en France.
Là aussi, le mur de la dette, le célèbre plafond, va être atteint au mois de juillet.
Ouais.
L'administration Trump a soumis au Congrès la possibilité de reporter, d'augmenter ce plafond pour éviter les célèbres shutdowns auxquels on assiste régulièrement depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Et jusqu'à présent, y compris les Républicains, ont dit, écoutez, tant qu'on n'y verra pas plus clair, on ne va pas voter le relèvement de ce plafond. Donc je pense que pour la première fois, les gens qui agissent et qui réagissent à l'évolution de la dette américaine peuvent se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir une forme de banqueroute des États-Unis sur leur dette publique du fait que le Congrès aura refusé d'accorder le relèvement du plafond.
On dit ça à chaque fois, c'est
pas cirque. Jamais.
Non mais on le dit à chaque
40 ans qu'il y a cirque.
On a cirque.
Non.
Oui, ça, oui, mais parce qu'avant, il y avait des administrations à peu près raisonnables. Là, je pense que...
Vous pensez que le mec est vraiment nul, vous ?
Pas nul, je pense qu'il est imprévisible.
Dites-le, n'ayez pas peur, vous avez peur.
Non, nul, ça veut dire qu'il est... Non, je ne pense pas qu'il est nul. Je pense qu'il est...
Vous avez peur. Marc, je vous connaissais physiquement plus courageux, quoi.
Là-haut. Non, moi, je serais précis. Le mot, ce serait plutôt fou que nul.
Ah oui, c'est sympa.
Oui.
Vous avez quelque chose à rajouter, Valentine, sur l'idée que, en fait, ce qui n'est pas clair dans ce que vous dites, excusez-moi, c'est vous dites donc taux d'intérêt court terme plutôt en baisse, taux d'intérêt long terme, les deux, vous nous dites ça va baisser, mais ça va mettre du temps parce que ça va être, parce qu'il va y avoir ce petit remontée de l'inflation à court terme et parce qu'il y a le niveau de financement qui va plomber un peu les choses.
Oui, c'est pas tellement qu'il va y avoir de l'inflation, mais parce qu'effectivement, il y a des incertitudes, il y a une angoisse sur la réalité des capacités de l'administration américaine à maîtriser ces dossiers. Parce que, si vous voulez que je prenne position de façon claire, oui. Je répète, il est fou.
D'accord. Dernière question, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, pourquoi on baisse pas, alors qu'on sait que la situation est mauvaise en Europe, pourquoi on n'accélère pas la baisse des taux ?
Je pense qu'on n'accélère pas la baisse des taux, parce que d'abord l'Allemagne a encore de l'inflation à 2,2%, hein, l'inflation n'est pas totalement...
Vous dites tout le temps qu'il n'y a pas d'inflation.
Non, j'entends bien, mais l'Allemagne interprète la hausse des prix comme étant de l'inflation, c'est que l'Allemagne fasse des erreurs...
C'est une erreur, donc.
Oui, c'est une erreur. Donc, d'accord. Elle devrait soutenir une baisse plus significative des taux à court terme. D'autant plus qu'encore une fois, il y a un problème de pente de la courbe des taux. Hein. Sur les taux d'intérêt tels qu'ils sont pratiqués à long terme, on est encore en dessous sur certains pays des taux à court terme.
Donc, Christine, si vous nous écoutez,
Donc, c'est votre taux, Christine, il faudrait qu'elle baisse ses taux.
Christine, il faudrait que vous baissiez vos taux. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, des placements, de l'allocation d'actifs, du top ou flop de la semaine, du top 3 des gérants et des actions à acheter ou vendre. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Retour en deuxième partie de l'émission avec le monumental Jean-Marc Daniel, avec François Chollet, Louis de Montalembert et Valentine Hénoz. Et avant d'attaquer les marchés, je voudrais quand même revenir sur le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est les investissements. J'habite en France, bah oui, je parle de la France. Les investissements étrangers en France en baisse de 14%. Ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'on est quand même toujours la première destination des investissements étrangers en Europe. Ça, c'est quand même pas mal. Mais il y a quelqu'un qui nous a dit qu'en fait, c'était pas bien et que c'était bien que ça baisse les investissements étrangers en France. Vous avez bien entendu, c'est Jean-Marc Daniel. Jean-Marc.
Oui, je répète ce que je dis plusieurs reprises sur ce plateau, oui, et sur d'autres plateaux. Je rappelle que les investissements faits par les étrangers aujourd'hui sont la ponction sur la création de richesses de la génération future. Il ne faut pas se faire d'illusions. Or, la génération future, elle sera de moins en moins nombreuse.
Sauf si cet investissement est productif. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Oui, mais s'il est productif, de toute façon, il y a la rémunération de cet investissement qui va aller vers le propriétaire qui sera un étranger. Et donc, à la fin...
En partie.
Mmh. Et donc, quand vous regardez notre balance des paiements courants, qui est largement déficitaire, vous apercevez qu'on gagne encore un peu d'argent sur les placements que nous avons effectués à l'étranger par rapport à ce que les étrangers ont. Oui. Mais en un an, on a perdu 1 milliard de bénéfices nets. Et on est dans une zone qui est une zone qui, comme elle vieillit, a plutôt intérêt, non pas chercher à faire venir des investissements, mais elle-même se projeter à l'extérieur.
Donc il faut multiplier les grèves, il faut faire ce que fait la CGT que personne n'ait envie d'investir.
Non, que des Français investissent en France, ça me dérange pas, mais que les gens qui investissent...
Je croyais que vous étiez pour les frontières ouvertes.
Ah, mais je suis complètement pour les frontières ouvertes.
Là, vous dites qu'il faut que les Français investissent en France, mais c'est horrible.
Non, pas que les Français. Je pense qu'une des questions que l'on doit se poser, c'est pourquoi les Français n'investissent pas davantage en France? Pourquoi est-ce qu'on a besoin
d'aller? Donc, vous dites qu'il faut que les Français investissent en France, mais les étrangers, par contre, on ne veut pas d'eux.
C'est pas qu'on veut pas d'eux.
Dans l'investissement.
Je porte pas de jugement de valeur. Je porte un jugement sur les conséquences. D'accord. En tant qu'économiste, je dis, en faisant ça, d'accord, vous criez, vous applaudissez à la ruine de vos enfants.
Donc vous allez créer le forum Don't Choose France.
Moi, je crée le forum. Écoutez, il y a 426 milliards d'excédents extérieurs de la zone euro. Okay. Pourquoi est-ce que dans ces 426 milliards, le seul pays qui ne contribue pas à faire des excédents, mais qui détruit des excédents, c'est la France? Pourquoi est-ce que le seul pays qui n'épargne pas assez, c'est la France? Et donc je dis, il faut qu'on ait des capacités d'épargne renforcées pour investir en France et pour investir à Mumbai et au Congo, puisque...
Comme je vous le dis à chaque fois, les ménages ont de l'argent, ils sont prêts à investir. François?
Un des succès de Donald Trump, c'est d'être parvenu à ce que l'ensemble des dirigeants des grands groupes européens mondialisés annoncent les uns après les autres des plans d'investissement aux États-Unis. Exactement. Et se bousculent pour y aller. Et donc, voir toujours le côté négatif de ce que fait Trump, la réalité, c'est qu'il obtient des choses, et ce qu'il obtient, c'est notamment ça, de la part de nos entreprises qui privilégient aujourd'hui les États-Unis pour les investissements à venir, que ce soit pour des raisons effectivement de barrière à l'entrée, que ce soit pour des rééquilibrages. On l'a vu notamment dans les années 2000, où on cherchait à couvrir les parités de change en ayant des rééquilibrages par zone.
Ça allait m'énerver, Jean-Marc.
Non, mais je vais juste réagir à ça.
Allez-y, réagissez, Jean-Marc.
Parce que Scott Bessent, toujours pareil, le secrétaire au Trésor, ce qu'on n'écoute pas assez à mon avis, il a dit, la semaine dernière, pas cette semaine, il a dit, écoutez, le déficit commercial du Japon, c'est environ 60 milliards de dollars. Ce que les Japonais retirent du fait qu'ils sont détenteurs d'une partie de notre appareil productif est supérieur à ces 60 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous, parce que nous avons laissé les Japonais investir chez nous, nous sommes en train de payer la retraite des Japonais.
Est-ce que Trump... Parce que l'argent qui a été investi a été mal utilisé. Mais ce qu'on pourrait expliquer, parce que franchement, c'est compliqué pour des gens qui nous écoutent de dire on veut pas avoir d'argent qui s'investisse en France. l'argent qui s'investit en France de façon intelligente, qui produit de l'emploi, produit quand même de la richesse.
Oui, mais pourquoi c'est pas les Français qui le font? Quel est le problème?
C'est un autre sujet.
Qui fait qu'on a besoin...
Parce que Jean-Marc Daniel dit qu'on est dans un...
On est supposé...
Parce que Jean-Marc Daniel dit qu'on est dans un monde ouvert et qu'il faut que tout soit ouvert et qu'il faut qu'on continue à se faire enfiler par la Chine comme depuis 20 ans.
On n'épargne plus, c'est qu'on utilise bien cette épargne. Ce que je constate, c'est que tout ça, ça traduit le fait qu'on n'épargne pas assez, comme les États-Unis qui n'épargnent pas assez. Et comme le dit Scott Bessent, nous sommes arrivés dans une situation où nous travaillons pour payer la retraite des Japonais.
Allez, on passe tout de suite au marché. Cette semaine, comme l'a dit Jean-Marc Daniel, grâce à Donald Trump, les marchés sont remontés avec le S&P qui maintenant est positif sur l'année, le CAC largement, alors S&P un tout petit peu, le CAC est au-dessus de 6%, on a repris 1,5% cette semaine, mais on a pris près de plus de 4% sur les marchés américains, plus de 6% sur le Nasdaq. Le Nasdaq est quasiment à zéro alors qu'il était très négatif. Allez, Louis de Montalembert, c'est votre moment. Les marchés, vous en pensez quoi ?
Alors, moi, premier point, je suis étonné par la résilience de l'économie américaine parce que j'ai un fond d'inquiétude qui est important lié au fait que les marchés ont besoin d'anticiper et qu'il est très difficile d'anticiper quand on a une puissance publique qui est aussi erratique que celle que...
Non, parce que vous la jugez erratique et vous l'anticipez pas et vous la comprenez pas. C'est pas parce que vous la comprenez pas qu'elle est incompréhensible.
Non, mais quand on arrive avec un tableau, avec des calculs complètement idiotiques sur des droits de douane et puis qu'un jour...
Parce que c'était pas ça le sujet, en fait.
Non, mais c'est-à-dire que je pense que c'est un problème pour l'activité économique, ça veut dire que les entreprises ne savent pas où investir, ne savent pas quoi investir, les consommateurs ne savent pas quand consommer. Donc il y a quand même un problème dans l'inconnu. D'accord. Que donc. L'administration... Donc, il y a eu une remontée extrêmement vive des marchés.
Donc il est d'accord avec moi.
Ah oui, de toute façon, les deux, vous avez...
Donc il y a eu une remontée extrêmement vive des marchés qui était le bienvenu, parce que
il y a un
excès... dans la baisse, absolument. Mais on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui il y a encore des muscles avant qu'on ait véritablement une visibilité pour que les marchés montent de manière tout aussi vive ou au moins sur un rythme satisfaisant d'ici à la fin de l'année. D'autant que il faut quand même se souvenir où est-ce qu'on en était avant. On était dans ce qu'on appelle un soft landing. Le soft landing, c'est un truc que vous et moi, on a vu qu'en 96. D'accord ? Normalement, dans une...
Atterrissage en douceur.
Donc voilà, dans une phase d'expansion économique, il y a des déséquilibres qui se créent. Et c'est l'explosion de ces déséquilibres qui crée une phase récessive. Et dans la phase récessive, le système se purge de ses excès. Or, des excès, on en a eu plein avec le Covid, avec le rattrapage post-Covid. Et donc, moi, j'imagine toujours un soft landing comme étant un petit Cessna qui essaye d'atterrir avec des vents contraires et des bourrasques et qui arrive très rarement. D'accord ? Ça, c'était avant Trump. Et Trump arrive. Voilà. Et donc... Pour moi, il y a toujours des excès. Je sais pas, on parlait beaucoup l'année dernière de la dette immobilière commerciale. C'était 2100 milliards de dollars d'encours dans les banques régionales américaines. Ça existe toujours. Et puis, malgré tout, le risque de la dette américaine, on nous a dit, le Doge, ça va être 1000 milliards d'économies, les droits de douane, ça va être 1000 milliards d'économies. Et avec ça, je vais pouvoir réduire l'impôt sur le revenu des gens qui payent moins de 150, qui ont moins de 150 000 dollars par an. Aujourd'hui, tout ça est en fumée. C'est-à-dire que le Doge, c'est 150 milliards. Les droits de douane, on ne sait pas. On ne sait pas combien ils vont rapporter. Et par conséquent, je ne vois pas du tout la place qu'il y a pour les baisses d'impôts. Donc, voilà. Moi, avant d'y voir plus clair, je
donc, vous nous dites sur la bourse, pour l'instant, plutôt prudent.
On est prudent. Voilà, on reste prudent.
François ?
Alors, c'était pas évident, hein, les deux mois qu'on a traversés
du point
de
vue
de la gestion, c'était pas évident parce que on est arrivé à un niveau de blocage où, sincèrement, trouver un point d'entrée sur les marchés, c'était extrêmement compliqué. En revanche, ce qui est clair, c'est que la libération des a eu ses effets et la capitulation devant les Chinois le fameux lundi en a eu tout autant. Et les marchés ont considéré donc qu'il s'agissait non pas d'une crise financière, mais bien d'une crise boursière. On a eu un krach boursier extrêmement violent. Et à l'image de ce krach boursier extrêmement violent, le fait qu'il se soulage aussi rapidement, aussi fortement, on a... Je pense d'un point de vue technique, alors je suis pas le grand spécialiste, mais franchi toutes les résistances, on a laissé plein de gaps ouverts, on entend ça régulièrement sur l'antenne. Objectivement, les marchés sont retournés dans la tendance pré Liberation Day. Et ça, c'est assez puissant comme mouvement. Et simplement, ça montre une chose, c'est que cet impact très court, finalement, donne lieu derrière à un rebond en V assez historique, tout aussi d'ailleurs puissant que la baisse. Et puis, qu'on n'a pas laissé de traces trop traumatiques dans la tête des gens, puisqu'on voit les investisseurs américains continuer à racheter les actions.
Et puis ils n'ont pas eu le temps de réagir, en fait.
Si, on a vu...
Les particuliers, non.
Les particuliers, un peu.
Un peu, surtout les...
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tous les...
C'est les professionnels.
Tous les professionnels qui sont...
Mais les particuliers, eux, n'ont pas eu le temps de réagir.
Et ça, ça explique beaucoup ce qu'on a vécu cette semaine, notamment la séance de lundi sur le Nasdaq, qui est historique. Moi, j'ai un fonds US qui a pris plus de 5% sur la séance. J'ai vérifié deux fois la valeur liquidative du produit pour être sûr qu'on s'était pas trompé. C'est impressionnant de puissance. On a vu des titres comme Tesla, Nvidia refaire des parcours inouïs en simplement sortant de ce mode de short et de couverture qui était extrêmement répandu. Est-ce que c'est la fin de ce mouvement ? Sincèrement, je pensais qu'il pouvait s'épuiser. Il ne s'est pas épuisé. On construit très modestement. Et je pense qu'on peut retrouver les plus hauts. En tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît
impossible.
Alors qu'il y a un mois, j'aurais peut-être pas dit la même chose.
Jean-Marc, très rapidement, une des composantes évidemment de l'évolution des marchés, c'est les résultats des entreprises. Le contexte que vous décrivez, qui est plutôt anxiogène, plus la hausse des droits de douane, va peser sur les résultats des entreprises.
Ah non, mais je crois, effectivement. Encore une fois, je trouve que l'expression de François Villeroy de Galhau, un choc d'imprévisibilité, est une très bonne expression. C'est-à-dire que par rapport au choc traditionnel qu'on peut avoir, effectivement, un choc d'offre, un choc d'imprévisibilité, c'est, on est, pour reprendre le mot d'un pape, puisque c'est aussi à la mode de parler des papes, vous savez, en parlant de Napoléon, il avait dit, comediante, tragédiante. Et donc, on est dans la phase où c'est la comédie, le jour de la libération, là, quand Trump a découvert que les autos existaient, tout ça c'est comédiante, mais je pense qu'on va vers tragédiante.
Allez, on passe tout de suite à votre conseil, justement, avant de tomber dans la tragédie sur l'allocation d'actifs, puisque j'ai des gens très doués pour parler de ça. Tiens, Valentine, vous avez une idée, vous, qui êtes spécialiste des taux, est-ce que vous dites toujours aux gens de continuer à investir dans des produits taux et quel type de produits ?
Alors oui, il faut toujours continuer à investir les produits taux. Les niveaux de taux aujourd'hui sont élevés. Comme on l'a expliqué juste précédemment, on les voit à la baisse. Et après...
Quel type de produit ?
Sur tous les produits de taux obligataires,
d'accord.
De gouvernement,
des fonds obligataires.
Les fonds obligataires, dette d'État. Après, les autres produits qui sont intéressants aussi, c'est tous les produits de dette investment grade. Parce que...
Traduisez.
De dette bien notée.
Ouais.
Voilà, c'est les fonds de dette bien notés, eux qui.
Donc, ça, on achète quoi ? C'est des unités de compte en assurance vie ou c'est des fonds gérés par des grandes maisons.
Exactement. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que jusqu'à le scénario de récession, la probabilité de ce scénario a quand même très, très fortement baissé. Donc, on va quand même rester dans un scénario. On aura une activité économique, certes, qui va ralentir. Hein. On n'est plus vraiment aujourd'hui sur un scénario de récession.
Imprévisibilité,
c'est imprévisibilité.
Non, mais on est au stade de la probabilité. Je pense que, alors, je préfère comme il y a une chance sur deux, ce qui me permettra de dire, écoutez, s'il y a récession, je vous l'avais dit, une chance sur deux. S'il n'y a pas récession, je vous l'avais dit.
Mais mouillez-vous. C'est quoi, c'est 52% récession ou c'est 50%?
Oui. non, c'est récession ou pas récession. Quand on dit il y a une chance sur temps, c'est de l'enfumage.
Non, mais
et un scénario de croissance qui ralentit avec des banques centrales qui baissent leurs taux, ça, quel que soit, c'est une configuration qui reste extrêmement positif pour les actifs risqués. Donc, c'est un scénario qui va rester positif pour les actions, qui va rester positif sur le crédit.
Donc, on continue un peu sur les obligations, on continue sur les actions.
Et après, avec nous, on rééquilibre avec un peu plus sur l'Europe, parce qu'on est quand même un peu prudent sur ce risque américain, ce risque politique américain.
François, l'allocation d'actifs, en termes de zone géographique, en termes de classe d'actifs ?
Pour être très honnête, on a un peu fait l'année en termes de perf dans les allocations et dans les mandats. Donc l'idée, c'est peut-être de rééquilibrer un petit peu pour remettre simplement les poids normaux, parce qu'il y a eu des déformations très importantes des poches pour les clients.
Pourquoi vous avez fait l'année ? Comment vous avez fait l'année ?
En termes de perf, globalement, on a...
Ah oui, vous avez investi sur quoi ?
Les mandats ont été plutôt judicieux. On est investi sur des thématiques essentiellement européennes, mais par construction, on est plus européen que américain dans nos mandats. Ça nous a beaucoup porté.
D'accord.
Et dans les diversifications qu'on avait choisies pour nos clients, on avait des choses qui ont bien tenu. J'avais cité sur votre plateau les small caps. On a un fonds qui a plus 11. Ça aide bien dans les PEA et ça fonctionne bien. On avait cité un deuxième sujet, c'était la Chine, ça fait longtemps qu'on est dessus, et là aussi on est à plus de 11% de performance sur l'indice chinois.
Bah super,
ça
bravo.
A bien aidé dans cette période-là. Et le troisième petit joker qu'on avait, c'était l'immobilier côté européen. On a des bonnes publications, on a des dividendes qui sont...
Donc vous étiez contrariant sur tous les trucs qui s'étaient fait ramasser.
Il y avait des choses à faire en dehors des grands indices, et ça a pas mal aidé. Donc revenir à des pondérations un peu normales dans les mandats pour les rééquilibrer, et puis se dire effectivement que c'est peut-être pas en mai qu'on va faire l'année, se mettre un tout petit peu de cash pour une période qu'on peut imaginer un peu volatile. Mais encore une fois, pas du tout dans l'espoir d'un repli, simplement rééquilibrer des portefeuilles qui ont fait leur travail.
Très rapidement, Louis.
Moi, je pense que malgré tout ce qu'on a dit, les États-Unis restent une terre intéressante, et notamment dans les mid-cap tech. En fait, on trouve des valorisations qu'on n'a pas vues historiquement et qui sont exceptionnelles, avec des taux de croissance qui sont très intéressants. On n'est pas affecté par les droits de douane. On est sur du dématérialisé, donc c'est très intéressant. Après ce que j'ai dit sur... moi, je pense effectivement qu'il y a encore une chance de récession, donc avoir du cash. Je pense que les mines d'or, c'est un actif qu'on ne regarde pas assez souvent, mais on est dans une phase de baisse du pétrole. C'est quand même la matière première essentielle de la prospection aurifère. Et finalement, si on pense qu'il y a un risque aux États-Unis, la monnaie, cette incertitude qui est induite par Donald Trump crée une aversion pour le dollar, et bien finalement, avoir de l'or, mais sous forme de producteur par les mines d'or, parce qu'ils vont bénéficier de gains de marge, c'est pas forcément idiot.
Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Merci pour vos conseils. Valentine.
Mon top, c'est l'assouplissement de la réglementation bancaire aux États-Unis qui est à venir. Un sujet vraiment à surveiller de très très près.
On vous dit un top. Il y a des gens qui vous disent que grâce à ça, on va se taper un crack dans 3 ans.
Exactement. Plus. C'est un top flop.
C'est un top flop, ouais, d'accord.
C'est un top flop, mais à surveiller parce que la volonté du gouvernement de Donald Trump, c'est de déleverager le secteur public. Très théorique, hein. Mais de relèverager le secteur privé, parce qu'une des forces aujourd'hui de l'économie américaine, c'est le très très faible levier des ménages. Et aussi à surveiller ces changements de réglementation qui devraient permettre aux banques américaines d'acheter beaucoup plus de dettes d'État américain.
Dérégulation, c'était le grand mot. On a toujours dit que ça serait plus important même que les droits de douane. Louis de Montalembert.
Mon flop, c'est la grande tournée au Moyen-Orient de Donald Trump, que même des journaux républicains ont appelé la grande tournée de la corruption, hein, parce qu'on est quand même dans un système où les fils ont fait la tourner des mêmes pays avant pour avoir des projets immobiliers. Je ne parle même pas de l'avion donné par le Qatar pour 400 millions de dollars et que M. Trump arrive à justifier comme étant le bon sens d'accepter un cadeau qu'il compte récupérer pour lui-même à la fin de son mandat. Et on se souvient quand même que Donald Trump, c'est le gars qui a émis une crypto-devise juste avant, 2 jours avant son inauguration, pour se mettre quelques milliards dans les poches. Donc, en fait, on peut toujours parler de Donald Trump et de l'intelligence et le fait qu'il a un plan. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de corruption tel qu'on n'en a jamais vu dans les démocraties occidentales. Donc, c'est un flop, maxi-flop.
François.
Alors, dans les tops, j'avais mis la reprise en V du marché, mais on va mettre un deuxième top, c'est l'indice de révision des bénéfices qui a été sorti par Citigroup aux États-Unis et qui est repassé en surprise positive. C'est quelque chose qui n'est pas très intéressant.
C'est-à-dire que les entreprises publient des résultats qui sont meilleurs que ce qu'on anticipait, c'est ça?
Oui, et les analystes sont en train de réviser plutôt à la hausse les anticipations de croissance des bénéfices pour cette année. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête. Le deuxième top, c'était plutôt les chiffres d'inflation, CPI, PPI qu'on a eu cette semaine. Ils sont plutôt rassurants avec les baisses du prix de l'énergie. Je trouve que ça laisse un peu de marge à nos banquiers centraux et au banquier central américain.
Mais c'est tout, c'est bon. Enfin, il y en a pas
de flop.
En fait.
Okay. Non,
ça va, c'est très bien comme ça.
Très bien, la prochaine fois.
Moi, j'ai comme d'habitude un top historique puisque c'est un anniversaire. C'est un anniversaire triste. C'est les 2 ans de l'anniversaire de la mort de Robert Lucas.
Ah oui.
Et donc Robert Lucas, il y a eu le prix Nobel en 1995. Il est mort le 15 mai 2023. C'était le grand théoricien de la nouvelle macroéconomie classique, des anticipations rationnelles, qui avait dénoncé l'utilisation du déficit budgétaire pour essayer de relancer la croissance, toutes les erreurs qui ont été faites au nom du keynésianisme sur le rôle de la consommation, sur comme moteur de la croissance, sur
Donc il aurait soutenu ce que fait Donald Trump pour ce moment.
Non, pas du tout. Il aurait dit il faut arrêter de dépenser. Et concernant la dépense publique, le véritable enjeu, c'est moins la quantité que la qualité. Le véritable enjeu, c'est de se poser la question de à quoi sert l'argent que l'on récolte.
Quel livre faut-il lire de lui, si on veut...
Alors, ce qu'il faut lire, c'est un article de 1969 sur inflation et taux de salaire réel. Où il,
on trouve sur partout.
qu'on trouve partout, oui, okay. qu'on trouve, enfin, sur toutes les banques de données qui parlent de théorie économique, où il explique effectivement que la concurrence est plus le bon régulateur de l'économie que la politique économique ou la politique monétaire.
Dixit, le gars qui veut qu'il y ait que des Français qui investissent en France, hein, mais bon.
Non, je dis pas.
On n'est plus en.
Je dis que tout le monde a le droit d'investir en France, mais je dis qu'au total, il vaut mieux que nous ayons plus investi à l'étranger qu'il n'y a de gens qui ont investi en France depuis l'étranger.
Allez, vous m'envoyez de la musique qui fait peur parce que je vais taquiner Louis de Montalembert. Et on va avoir son portefeuille. Ah oui, non, il y a le top 3 d'abord. Alors, le top 3, bravo. Hein. On a William Higgins en hausse de 20%. On a Eric Blaine, 19,2%. Stéphanie Mauger, 17,7%. C'est quand même des super performances. Hein. Puis globalement, les gérants de l'émission se débrouillent plutôt pas mal. Mais là, les trois performances, c'est costaud, non les...
Des gérants value et qualitatifs qui ont été capables d'aller sur des small aussi, j'y crois. Et donc, c'est vrai qu'ils ont été portés par des marchés favorables en Europe. Hein,
très fort. Et on a eu vraiment un retournement, puisque en début d'année, c'était plutôt toutes les valeurs américaines et tech qui portaient un peu la performance. Et là, on a un retour à ces valeurs un peu plus value, comme vous dites. Allez, on envoie les portefeuilles. Louis de Montalembert, est-ce que vous êtes prêt?
Oui, je suis prêt.
Parce que la France vous regarde.
Oui, je sais.
On a du Snowflake.
On garde.
On a du Bill.com.
On garde.
On a du Monday.
On garde.
On a du Elastic.
On garde.
On a du MongoDB.
C'est difficile, mais on garde.
On a du GitLab.
On garde.
On a du Procore.
On garde.
On a du Braze.
On garde.
Adyen.
On garde.
SentinelOne.
On garde.
Salesforce.
On garde.
Viva la Viva.
Viva.
Cloudflare.
Cloudflare, on l'avait rentré la dernière fois, et ça fait plus 35%, donc on le sort. On l'avait déjà rentré le 10 janvier. Oui.
Vous faites des allers-retours, vous êtes
avril,
un trader.
On a fait plus 56%.
Vous êtes un vil trader. En fait.
Là, sur cette valeur, je dois avouer que c'est vous qui m'inspirez, Marc. Hein.
C'est ça.
Un trader ne meurt jamais.
Un trader ne meurt jamais. Donc vous êtes devenu trader.
Voilà, exactement. Non, mais sur Cloudflare, il faut admettre quand même qu'on a fait 35%, on avait fait 56% dans un premier mouvement.
Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète du CyberArk. CyberArk, c'est une société de cybersécurité israélienne qui s'occupe de ce qu'on appelle le Privilege Access Management, c'est-à-dire l'accès au système pour, par exemple, les administrateurs des systèmes IT. Donc, c'est des systèmes d'accès qui sont plus élevés que les accès communs que l'on fait.
Côté au Nasdaq.
C'est coté au Nasdaq, tout à fait. Et ils ont fait l'acquisition l'année dernière de Venafi, qui est une société qui, elle, fait l'accès pour les machines. Il faut savoir que pour chaque humain, il y a 45 accès machines. Et avec ce qu'on appelle l'IA agentique et les agents, il y aura de plus en plus d'accès machines. Même vous, quand vous demandez avec votre téléphone un accès quelque part, c'est un accès machine en plus. Et donc, il y en a 45 en moyenne par humain aujourd'hui. Il va y avoir une explosion avec l'IA générative. Il faut savoir que c'est une entreprise qui fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires, croît à 38%, fait 20% de marge cette année contre 15% l'année dernière, pèse 17 milliards pour 1,2 milliard de trésorerie nette. C'est le bonheur, il faut y aller.
François Chollet, est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que la France vous regarde ?
Je suis prêt.
Vous avez donc dans votre portefeuille, vous avez du AXA.
On va garder.
Vous avez du CGG.
Oh là là, j'ai gardé ces choses-là. Oui, le cash flow est positif sur cette valeur-là, c'est une small cap. On l'avait un peu oublié dans le portefeuille, mais on va la garder.
Trigano.
On garde, on a une belle publication, objectif au moins 150 euros.
Kering, vous l'aviez sorti de vos portefeuilles, ça non ?
Oui,
vous le gardez.
Mais il nous en reste encore, parce qu'on a des clients qui avaient des prix d'achat très anciens sur cette valeur-là. Objectivement, je pense qu'il y a une limite à tout, on va la conserver.
Siemens.
Siemens, on garde.
Eli Lilly.
On garde.
Microsoft.
On garde.
Novo Nordisk.
On garde.
LVMH.
On va garder aussi.
Technip.
On garde.
Dassault Systèmes, ça marche bien.
On garde, évidemment.
Et qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, deux sujets, non pas de trading, mais plutôt de long terme, puisque je ne suis pas très invité, je n'ai pas l'occasion de faire des allers-retours. J'ai pensé à SML, qui est le leader.
Non, vous êtes un vrai gérant, vous n'êtes pas un bill trader.
On va dire ça.
Contre d'eau, contrairement à d'autres.
Mais SML, donc une des premières capitalisations européennes, et qui est évidemment le seul grand fabricant de systèmes pour imprimer des puces au monde et qui a, je crois, un carnet de commandes qui nous donne beaucoup de visibilité. Alors, c'était très cher, ça a bien consolidé. Je pense que le point d'entrée n'est pas totalement stupide.
Pourquoi ça a baissé, un truc comme ça ?
Tout simplement parce qu'il y a eu des menaces sur la capacité du groupe à pouvoir exporter ses derniers modèles de machines là où il voulait, notamment du fait de l'administration de M. Trump. Et puis des valorisations aussi, il faut le dire, qui étaient extrêmement élevées. On a eu un repli, je pense que ça peut être un point d'entrée pour les 2-3 prochaines années.
Vous aimez bien être contrariant, hein, j'ai remarqué, parce que dans tout ce que vous avez acheté qui a fait votre performance depuis le début de l'année, encore bravo,
c'est quand même des positions qui étaient des positions dont personne ne voulait il y a encore quelques mois. Donc c'est un peu votre, c'est une partie de votre philosophie de d'essayer d'aller
chercher. Oui, les entreprises dans un cercle de vie, elles ont des moments de forte croissance où elles trouvent des valorisations très élevées et puis elles tombent souvent dans des poches un peu de value, de distribution de dividendes, etc. où on a moins de croissance, moins besoin de fonds propres et donc on va rémunérer mieux l'actionnaire. Et puis parfois il y a des trappes où plus personne ne considère les dossiers.
Et là vous vous dites,
je pense que dans ASML on est toujours dans une société de croissance. On a simplement un retour à une valorisation qui est plus raisonnable et donc on peut se permettre de payer cher des boîtes de belle croissance. Et d'ailleurs, la deuxième que je vais citer,
très rapidement,
c'est Essilor, qui elle aussi a été portée par une belle restructuration. Et puis évidemment, les lunettes connectées avec Meta qui s'intéresse au dossier largement.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Vous pouvez me poser des questions d'économie ou de placement sur marc@bfmbusiness.fr et je vous répondrai sans mauvaise foi, contrairement à d'autres. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes. Il faut combattre notre record en 2025.